C'est pas faux.
That's like not being on Facebook.
I'm not on Facebook.
You're so fucking classy.
Where is Jessica Hyde?
So there's two ways this could go, Precious. Kick or kiss. They both end the same. With my dick up your ass.
Like, there's this guy who invented this car that runs on water, man. It's got a fiberglass air-cooled engine and it runs on water.
Shut up. Shut up, guys. Shut up. Please shut up. Stop. Shut up. 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 Shut up.
Allez, je te laisse chez les crocs.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, l'épisode 29 de la saison 2 après deux petites semaines de congés bien mérités. Ces vacances de printemps nous auront fait un plus grand bien. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Tu es de retour en pleine forme.
Comme toujours.
Alors, on parle série télévisée avec peut-être une petite revue des pilotes comme chaque soir lors de l'émission Série Folie.
Exactement, et ben, comme on a eu, comme tu l'as rappelé, deux semaines de Bonnie, ben, j'ai sélectionné uniquement les meilleurs, parce que figure-toi que oui.
Il y en a eu des bons.
Il y en a eu des bons, et même des très bons. En tout cas, que moi j'ai beaucoup apprécié. Je vais commencer ben, par celui dont j'ai le plus entendu parler, me semble-t-il. Qui passe sur Netflix, ce qui explique peut-être pourquoi on en entend autant parler de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est Daredevil, la dernière série Marvel, avec donc le super-héros aveugle.
Bien, bien. Bon, moi j'ai vu quelques images, j'ai pas eu l'occasion de suivre la série avec toi. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, j'ai pas encore vu toute la série, hein, mais j'ai quand même vu déjà 5 épisodes.
Elle est disponible, la première saison, complètement ?
La première saison est disponible complètement, oui. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment, vraiment au niveau visuel, au niveau de l'histoire aussi, au niveau des personnages qui nous sont introduits dès le premier épisode, vraiment très accrocheur. Et ça donne envie de continuer. C'est vraiment une série qui paraît immédiatement être d'assez bonne qualité sur à peu près tous les plans, et donc qu'on a envie de suivre et qu'on suit avec beaucoup de plaisir jusqu'à présent.
Très bien. Le récit, on n'en parle pas aujourd'hui, non, pas
encore. Le récit, ben, c'est un récit de super-héros. Hein, la spécificité de Daredevil, c'est que c'est un super-héros aveugle, comme je l'ai dit, qui est avocat le jour et qui, la nuit, enfile un costume moulant, comme à peu près tous, hein, pour pouvoir aller combattre les méchants dans le quartier de Hell's Kitchen, donc à New York.
Bien. Et quoi, la qualité globale des effets spéciaux, ce genre de choses, nickel?
Oui, franchement.
Rien à redire. Alors,
bon, c'est vrai que je suis pas très douée pour repérer les défauts.
Les failles.
Sur ce plan-là.
Tu as de la chance, je n'étais pas là.
Je l'avoue. Mais franchement, je n'ai ressenti à aucun moment une impression d'être face à quelque chose qui faisait faux ou qui avait l'air mal réalisé ou quoi. Donc, pour moi, c'est juste bien.
Hein. Une bonne expérience. Ouais.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Et au niveau de l'histoire, ça n'est pas véritablement des épisodes fermés. Au contraire, alors qu'on s'attend plutôt à ça au premier épisode où on a une histoire qui arrive plus ou moins à une forme de conclusion à la fin de l'épisode, mais finalement, on se rend compte que le récit continue de manière linéaire pendant chaque épisode. Et donc, bon, ça n'est pas non plus ennuyeux pour cette raison-là.
Très bien, merci pour ce partage d'expérience. Prochain pilote que tu veux partager avec nous ?
Alors, un deuxième pilote qui m'a semblé, ma foi, plutôt sympathique. Cette fois-ci, il s'agit d'une comédie. Et comme les comédies se font rares, bah, j'aime bien quand même pouvoir en parler parfois. Ici, il s'agit d'une comédie de la Fox qui s'appelle Weird Loners. Qui nous présente quatre personnages, deux garçons, deux filles, qui sont des gens un petit peu bizarres. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le pilote, parce que ils n'ont jamais réussi véritablement à entretenir une relation stable avec qui que ce soit. Ce sont des célibataires endurcis, tous pour des raisons un peu différentes, mais qui vont finir par se retrouver dans deux maisons mitoyennes et qui, donc, on l'imagine, vont développer au fur et à mesure des épisodes, en tout cas si le succès permet que la série dure suffisamment longtemps, qui vont développer une certaine amitié entre eux. Comme dans énormément de comédies qu'on a tous en tête, les Friends, les How I Met Your Mother, etc. Même si au départ, dans le premier épisode, ils ne se connaissent quasiment pas, ou en tout cas sont assez peu liés l'un à l'autre.
Il faut laisser le temps de tout mettre en place. Je suis sûr qu'à terme, oui, ça va se transformer en cette espèce de série où on passe son temps chez l'un, chez l'autre.
Voilà, exactement. En gros, pourquoi c'était très sympathique? En grande partie parce que chacun des acteurs sont des acteurs qu'on a déjà vus dans des rôles assez proches dans d'autres comédies. Et donc, on n'a pas vraiment l'impression d'être face à quelque chose de... à une série nouvelle. On a l'impression de revoir plein d'acteurs et donc plein de personnalités préexistantes. On les retrouve là, mises ensemble, et ça marche plutôt bien. En tout cas, pour le pilote, j'avais vraiment trouvé ça plutôt sympathique. Le deuxième épisode était un petit peu moins folichon, mais bon, on peut évidemment accepter qu'il y ait des hauts et des bas, c'est pas vraiment problématique en soi. Si cette série a la chance de continuer, je me dis que ça peut faire un bon petit divertissement sans grande prétention, hein, ne nous emballons pas, mais bon, voilà.
Très bien, tu gardes un œil dessus et on regarde un peu à l'évolution.
Exactement.
La suite.
La dernière série dont je vais parler, c'est celle que je vais le plus défendre, et probablement en partie parce que j'ai entendu qu'elle s'était déjà plantée au niveau des audiences au deuxième épisode, alors que le pilote m'avait totalement enchanté et que d'ailleurs le deuxième épisode était sur la même lignée, donc je ne comprends pas bien pourquoi. Il s'agit d'une série NBC cette fois-ci, et ça s'appelle American Odyssey. Alors, l'intrigue est très intéressante, je trouve, pour cette série-là, et assez riche, assez complexe, puisque on suit différents protagonistes un petit peu de répartis aux États-Unis et aussi au Moyen-Orient, ou alors c'est au Mali, je crois, que se trouve des soldats. Tu te moques de moi parce que j'ai parlé du Moyen-Orient et puis que je parle du Mali,
non,
c'est ça?
Non, du tout, je t'écoute, moi. Rien à dire. Tu es seul maître de tes explications.
Oui, non, je suis désolée. Bon, donc, nous avons donc au départ un groupe de soldats que l'on voit dans le repère d'une sorte de Oussama Ben Laden, on l'imagine. Le rapprochement est assez immédiat, qui vient d'être abattu. Et dans ce repère, il y a un ordinateur sur lequel il y a de nombreux documents, notamment financiers, dont des documents en anglais qui prouveraient qu'il y a eu des versements d'argent depuis une banque américaine. Donc, il y aurait une implication de certains groupes américains dans le financement de ces terroristes. Mmh. Malheureusement, dès qu'ils découvrent ça, très vite, une armée de mercenaires, donc qui ne fait pas partie de l'armée américaine, mais qui sont une armée privée, va arriver, confisquer tous les documents et les ordinateurs qui se trouvent sur place. Une des soldates qui était dans le premier bataillon a réussi à faire une sauvegarde sur une clé USB et va donc la garder précieusement parce qu'elle ne fait absolument pas confiance à cette armée privée. Mmh. Malheureusement, pendant la nuit, alors qu'elle était partie soulager un besoin naturel, toute sa compagnie va être bombardée. Et elle est donc la seule survivante.
Malheureusement ou heureusement pour elle. Elle en tout cas...
Heureusement pour elle, elle en réchappe. Ouais. Mais elle se retrouve au milieu de nulle part, quasiment dans le désert, très embêtée, se rendant compte, puisque très vite après le bombardement, des soldats arrivent sur place pour nettoyer, que ce sont des Américains qui ont bombardé, non pas comme des terroristes comme elle pouvait se l'imaginer au départ. Et donc elle ne peut vraiment se fier à personne. Si elle donne ses coordonnées, eh bien on risque à nouveau d'essayer de la tuer. Et donc elle va devoir se débrouiller autrement. Ça, c'est une première chose. Et puis aux États-Unis, on suit différents groupes. Il y a une personne qui est très engagée dans un groupe du genre Occupy Wall Street et qui essaie de chercher des scandales qui pourraient réveiller le mouvement qui était un petit peu moribond précédemment. On a un avocat qui tombe par hasard sur une affaire bizarre d'un pilote de drone qui aurait été payé et qui tout ça on essaie de le cacher, etc. Donc il va se renseigner. Enfin, il y a c'est très foisonnant.
C'est une bonne base autour du complot, quoi.
Exactement. On est en plein dans le complot. C'est la seule chose qui peut un peu faire peur, c'est que bien souvent, quand on se retrouve face à des séries qui nous proposent un complot, ça peut vite partir en sucette et devenir peu crédible. Parce que un petit peu trop gros, trop lourd, c'est lui le grand méchant qui a fait le coup, et puis ça perd de son intérêt. Le deuxième épisode n'a pas encore donné l'impression qu'on se dirigeait vers ça. Au contraire, ça a l'air de continuer à être assez bien tenu, sans tomber dans des gros clichés ou ce genre de choses. Donc, véritablement, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, et aussi une assez bonne alternative à ceux qui ne se sont pas remis du passage de Homeland à d'autres horizons. Ici aussi, on observe d'autres horizons, mais d'une manière qui, moi, m'a davantage plu, notamment en grande partie parce que je trouve qu'au niveau du langage, c'est bête, hein, mais quand les autochtones parlent entre eux, ils parlent la langue locale et ils parlent pas en anglais entre eux, ce qui dans Homeland ou d'ailleurs dans Tyran cet été,
c'était assez dérangeant,
était ouais. un petit peu dérangeant, voilà. Donc voilà, jusqu'à présent, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'étais emballée par le pilote. Le deuxième épisode était aussi bien. Et donc, s'il y a moyen de tous se mobiliser
pour essayer de faire survivre la série,
pour sauver la série, pourquoi pas.
Et donc, tu rappelles le titre ?
Ça s'appelle American Odyssey et c'est sur NBC.
Bon, je te propose de faire une petite pause musicale, histoire d'un peu calmer nos oreilles. Voici du Norah Jones en préparation.
Oui, Come Away With Me, qu'on a entendu dans Hindsight.
Come away with me in the night. with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Série Folie, votre émission qui vous parle série TV. Eh bien, on continue avec le sujet du jour. On va débattre autour de la destination et du chemin. C'est ce que je vois sur ma petite fiche. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus parce que là, comme ça, ça me paraît un peu confus.
Bah écoute, c'est surtout hyper poétique. Et
poétique.
Non.
Où est-ce que tu vois?
Okay.
Déjà, je vois pas de rime. Ni de...
écoute, je ne réponds même pas
mon attaque.
Alors, la destination et le chemin, en fait, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit temps. L'idée me vient depuis que j'avais écrit une petite critique sur la série New Girl.
Ouais.
Dans laquelle, après avoir présenté la série dans l'émission, d'ailleurs, j'avais eu envie d'écrire sur la façon dont je trouvais que cette série, bien plus que nous présenter des petites histoires rigolotes, bien plus que le propos très léger qu'elle nous propose de manière assez évidente, nous raconte surtout la manière d'être d'une certaine génération.
Mmh.
Une génération qui serait les vingtenaires et trentenaires d'aujourd'hui.
Les vingtenaires, donc.
Ça se dit pas.
Je sais pas, moi.
Écoute, si ça se dit pas, on aura inventé un nouveau mot.
assume toute seule, s'il te plaît.
Simplement par le fait que, même si c'est vrai que le propos est très léger, on sent une sorte de volonté dans cette série d'injecter un petit peu artificiellement peut-être du spectacle, du fun, etc. dans une sorte de vie un peu désenchantée dans laquelle on voit pas vraiment d'avenir, on voit pas vraiment justement de destination au bout de sa route. Tout le monde est un petit peu perdu, sans véritablement de perspective ni personnelle ni professionnelle.
Ouais, mais justement, toi tu y trouves de la légèreté, mais moi je vois quand même le sous-jacent là derrière, Et je trouve quand même que oui, c'est lourd du fait que justement on n'y voit pas vraiment un avenir positif à tous ces petits jeunes trentenaires.
Oui, d'accord, mais ça reste une comédie drôle.
Oui, c'est drôle, mais sur certains aspects, parfois, voilà.
Oui, c'est
touchant, c'est très glaçant, c'est...
C'est un petit peu... Enfin, c'est très désenchanté, oui,
voilà.
Dans cette manière de présenter la vie de ces colocataires-là, puisqu'on parlait de colocataires tout à l'heure, mais voilà encore un exemple. Alors, donc... Voilà, à partir de cette idée-là, selon laquelle on a comme ça des séries qui nous proposent davantage d'explorer le chemin que de véritablement nous montrer la destination, nous montrer le bout du tunnel, et si on étend ça aux propos simplement de l'objet série, la fin de l'histoire, hein. On peut, j'ai l'impression, appliquer ça à l'ensemble des séries, surtout en les opposant, entre guillemets, au film et au cinéma en général. Dans la mesure où j'ai l'impression que même si on peut évidemment être ravi que... Le fait que certains aient affirmé que les séries c'était le nouveau cinéma ou le cinéma d'aujourd'hui, mais ça a permis une plus grande visibilité, une plus grande reconnaissance, etc. Et tout ça, c'est évidemment une bonne chose pour la reconnaissance de cet objet culturel qui était très très dévalorisé avant.
De par le fait qu'ils utilisent de meilleurs moyens qui se rapprochent plus du cinéma. Mais dans le mode narratif, là tu as raison, on va pas nécessairement aller vers une fin intéressante ou enfin tu vois.
Mais en tout cas, le fait que ce soit maintenant davantage les séries peut-être qui soient devenues à la mode, entre guillemets.
Ouais, plus accessible.
Et plus évidemment. Parce que plus accessible, probablement. Mais ça a changé un petit peu notre rapport, j'ai l'impression, à la narration, aux intrigues en général. C'est-à-dire qu'on pouvait s'imaginer qu'on était précédemment dans un mode de vie, dans un mode de pensée assez clos, dans lequel on avait des tâches à accomplir, qu'une fois qu'on avait accompli cette tâche, on arrivait à la fin d'un processus, où on était beaucoup plus... On savait davantage où on allait, je sais pas, et peut-être que la mise en valeur des séries aujourd'hui accompagne également une sorte de changement dans la mentalité, dans le mode de vie contemporain, dans lequel on est beaucoup plus perdu, beaucoup moins certain du fait qu'il y ait véritablement un but, une destination à atteindre. Et où finalement, ce qui nous reste, c'est davantage de profiter de la route, où qu'elle nous mène, quoi.
Oui, ou alors les séries télé nous montrent une ambiance, un mode de vie bien précis, un moment de vie avec des personnages qu'on aime bien, et on leur demande pas plus, on observe quelque part comme si on observait notre famille, nos voisins, on s'invite chez eux, c'est ça aussi.
Oui,
on n'attend pas grand chose de la progression de ces personnages là on aime bien, on s'y attache et ça suffit.
Mais en tout cas, évidemment qu'on n'a pas totalement abandonné la notion d'intrigue et qu'on est totalement détaché de l'idée qu'il faut quand même qu'une série ait une bonne fin, par exemple. Hein.
Idéalement,
ouais. On a tous en tête des séries dont on n'est pas satisfait de la fin et que ça a un petit peu gâché le plaisir qu'on avait pu prendre précédemment. Mais malgré tout, il y a un tel attachement à l'appréciation épisode après épisode, en effet, des personnages, de l'ambiance, etc., que finalement, c'est moins important
voilà,
quand même.
Ouais.
ça reste quand même un bonus, hein, quand une série arrive à rester sur une continuité narrative parfaite et arrive à se conclure de manière satisfaisante, c'est toujours mieux.
Oui, surtout,
mais malgré tout, il y a certaines séries, même si la fin, on n'a pas réussi à la trouver satisfaisante, mais au minimum... Une fois qu'on a dépassé la déception, on va dire, mais on finit par
on
se dire, allez, pendant toutes ces années-là, malgré tout, j'ai quand même beaucoup apprécié regarder et j'y ai pris beaucoup de plaisir, quoi. Donc voilà, par rapport à un film où finalement, même si l'attachement au personnage est important, il est quand même 100 fois moins important que dans une série dans laquelle, finalement, si on n'arrive pas à accrocher au personnage, si on n'arrive pas à accrocher à l'univers, si on n'arrive pas à accrocher à ce qui nous est proposé au départ, mais c'est beaucoup plus problématique, quoi. Et on arrive beaucoup moins à apprécier la narration que dans un film où, finalement... Peut-être que le personnage n'était pas génial, mais l'histoire était tellement bien que finalement, ça valait bien les 2 heures que j'y ai passées.
Oui, mais bon, voilà. Il y a certains films qui, au final, autour des personnages, se transforment un peu en série. Et là, je pense par exemple à Pirates des Caraïbes, qui nous ressort des épisodes tous les X temps et où on est toujours très content de retrouver Jack Sparrow. Là on a eu le temps, grâce aux différents films qui reviennent, à s'attacher vraiment au personnage. C'est clair que dans un film, l'exercice est beaucoup plus difficile, puisqu'on a 2 heures devant nous. Une série, t'aimes pas, t'abandonnes. Tu aimes bien, plus tu vas rester en sa compagnie, plus le lien va être fort, quoi, en gros.
Oui, tout à fait. Même dans l'exemple que tu cites, il y en a évidemment énormément d'autres au cinéma, de franchises comme ça, dans lesquelles on retrouve les mêmes personnages. Mmh. Malgré tout, je crois que d'un film à l'autre, on peut avoir des très très grandes différences qui font qu'il n'y a pas la même unité.
C'est pas la même ambiance, souvent d'ailleurs parce que le réalisateur change.
Exactement, oui.
Oui, ça c'est clair. Oui, tu as raison. Donc la série à ce niveau-là a un bel avantage devant elle par rapport au film.
Moi je pense par exemple aux Harry Potter. Les Harry Potter, d'un film à l'autre, l'ambiance est tellement différente que...
Oui, mais aussi ils sont à des âges où ils grandissent beaucoup, tu vois. Ils sont vraiment gamins au tout début et
puis à la fin,
bien sûr, c'est quasiment des adultes.
Il y a le côté film pour enfants dans les deux premiers qui a beaucoup moins par la suite, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça.
Il y a des années qui passent entre chaque épisode, donc au minimum 1 an. Et bon, là c'est beaucoup plus compliqué de se replonger dans la même ambiance. Il faut quasiment regarder le film avant d'aller voir le second au cinéma pour vraiment déjà se remettre dedans. Tandis que la série, telle qu'on la regarde actuellement, telle qu'on la consomme, avant on devait attendre une semaine. Maintenant on voit débarquer sur Netflix des saisons complètes, donc on consomme ça en 3 jours et on est dedans.
Oui.
Et donc c'est très différent.
Mais c'est exactement
ce que
tu
expliques.
Dis, oui.
Bah voilà. Désolé de ton avis, dit. Je rentre chez moi, si tu veux.
Ok.
Bon, tu as terminé pour cette première description.
Pour cette première partie, oui.
Musique. Ah, voilà du tout bon en préparation. Queen.
Oui, Queen avec Save Me, entendu dans New Girl. It started off so well. Said we made a perfect pair. Myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a sham, it seems. Years before.
The slate will soon be clean. I'll erase the memories to start again with somebody new. Was it all wasted? All that love. I hang my head and I had a time. A soul for sale.
Déjà de retour. Alors, ces séries télé qui se présentent donc sous la forme, pour la plupart, d'une nouvelle forme de narration par rapport au film.
Oui, mais voilà. L'idée, donc, c'est de dire les séries apportent un nouveau rapport aux intrigues par rapport au cinéma. Et les exemples les plus flagrants qu'on peut avoir en tête, mais ça va être les formats traditionnels, le soap, la sitcom et les différents dramas sous forme procédurale. Alors, le soap, par exemple, alors j'ai assez peu d'exemples de soap quotidien véritablement parce que c'est vraiment pas un genre que j'aime et donc j'en ai très peu vu. Mais il y a énormément de séries qui ont ces dernières décennies intégré des éléments de soap dans leur narration. Et on peut penser à Desperate Housewives, à One Tree Hill, ou dernièrement aussi Nashville ou Empire, ce genre de séries qui finalement vont avoir énormément de rebondissements. Tellement de rebondissements, même, alors que ce soit des rebondissements extérieurs, c'est-à-dire, on peut penser dans One Tree, là, des psychopathes qui viennent essayer de tuer les héros ou ce genre de choses totalement improbables, des accidents de voiture, ils risquent de mourir quasiment tous les trois épisodes dans certaines saisons de One Tree, ou alors même des. Interne aux relations, on peut penser à toutes les séries dans lesquelles on sort avec un, puis on sort avec l'autre, et au final, tout le monde a déjà formé un couple avec tout le monde, et on n'arrive plus à souvenir exactement de quoi. On peut se rendre compte dans ces cas-là, donc dans tous ces éléments soapesques des séries, qu'on a véritablement beaucoup moins, très peu d'importance qui est accordée à l'intrigue, puisqu'au final, tout ça devient totalement farfelu.
Ah oui, c'est un méli-mélo complet.
On n'arrive plus trop à s'y retrouver. Et dans les sauts véritables, les amours, gloire et beauté ou ce genre de choses, c'est encore plus flagrant. Ouais, puisque
là, ils veulent tenir sur la longueur. Enfin, ils ne se renouvellent pas.
C'est quotidien, hein, mm-hmm. Donc c'est encore plus difficile, on peut l'imaginer. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée que... peu importe le rebondissement, peu importe si quelque part, ben c'est vrai que il y a un autre épisode, un autre personnage qui, il y a trois épisodes, a aussi failli mourir et s'est aussi retrouvé à l'hôpital et que c'était aussi tout autant tragique que cette fois-ci. Mais en gros, ce qui importe, c'est qu'on va apporter la petite dose de sentiments, la petite dose d'adrénaline.
Oui, c'est ça, un peu de stress,
un peu de
d'inquiétude,
stress, oui, exactement.
Oh là là, comme dans la vraie vie de certaines personnes, en fait, qui en ont certainement besoin.
Peut-être, je ne sais pas.
Ça s'intéresse à un certain public, enfin, voilà.
Écoute, il faut aimer. Il faut aimer, mais même ceux qui n'aiment pas le soap pur et dur peuvent apprécier des éléments soapesques dans des séries plus traditionnelles. Hein.
On a suivi Desperate Housewives, hein, voilà.
On l'a suivi, pas jusqu'au
non,
bout, mais...
Non, on a un peu abandonné, mais bon, voilà. On s'en veut pas trop.
Non, ça ira, on survit.
Ok.
Donc voilà, dans les soaps, on peut vraiment constater que l'intrigue importe peu. Ce qui importe, c'est cette petite dose de sentiments que va nous apporter la série.
Oui, et puis il y a tellement de rebondissements, c'est comme s'il y avait des petites fins tout le temps, tu vois.
Oui.
Et
oui.
On redémarre avec autre chose. Voilà.
C'est un petit peu ça, oui. C'est un petit peu se rapprocher. Alors c'est un petit peu, c'est contradictoire ce que je veux dire, parce que c'est justement totalement farfelu et irréaliste. Et en même temps, c'est se rapprocher un petit peu du rythme quotidien de la vie, mmh. Où finalement, chaque petite journée a son petit lot de désagréments.
Relance pas là-dessus. Je pourrais te parler de quelqu'un en particulier qui m'explique sa vie comme ça.
Ah ben voilà. Écoute, voilà. Donc je crois oui que ça peut tous nous toucher d'une manière ou d'une autre. On peut constater dans la comédie, même si c'est sur un autre mode, aussi la même chose. Finalement, d'un épisode à l'autre, est-ce qu'il y a énormément de différences dans les réactions, dans les péripéties qui peuvent arriver à au hasard, on va citer qui, Ross et Rachel, ou
dans Philadelphia, ou ce genre de choses.
Ou dans Philadelphia, c'est vrai aussi, d'un épisode à l'autre.
C'est déjanté, c'est des comiques de situation.
Quelle est véritablement la différence entre l'épisode où ils décident tous d'essayer la drogue pour on ne sait plus trop quoi, et puis l'épisode où ils essaient tous de... Enfin... C'est tellement n'importe quoi qu'au final, on n'arrive plus trop à se souvenir des intrigues en tant que telles. Mais sur le moment, on a passé plutôt un bon moment en leur compagnie parce que les personnages sont toujours aussi savoureux. Et donc, peu importe que ce soit toujours la même chose, ouais. Puisque c'est ce qu'on vient chercher quelque part.
On ne se prend pas la tête, on veut un divertissement dans ce cas-là.
Voilà. Quand je regarde The Big Bang Theory, j'ai envie de voir Sheldon Cooper me ressortir les différentes répliques qui lui sont
attribuées
habituellement. Oui, et s'il n'y a rien dans cet épisode-là avec Sheldon, mais je crois que tout le monde est super déçu. Je crois que c'est même jamais arrivé parce qu'il prendrait pas le risque.
Non,
mais
non, non.
Voilà.
Mais en même temps, avec ce mode de narration, on peut rarement être déçu. Justement, si on poursuit le profil de base, s'il n'y a pas de but, on peut pas être déçu par le but. Tu comprends?
Oui.
Il y a certaines séries qui nous ont beaucoup déçus par la fin.
Oui, mais ça, on y vient plus tard. On y vient juste après. Mais...
ça m'énerve déjà. J'ai déjà ça sur le bout de la langue parce que j'en vois plein.
Écoute, retire-toi, s'il te plaît.
Okay.
Donc, dans cette série-là, c'est vraiment, oui, c'est vraiment ça qui est au principe de la série. Et donc, on n'en demande pas plus. Ceci dit, on peut constater qu'il y a un certain nombre de personnes, malgré tout, qui vont nous dire oui, moi, The Big Bang Theory, ou bien Dr. House, ou on pourrait encore en citer beaucoup d'autres. J'ai apprécié les premières saisons et puis je me suis lassée parce que c'est toujours la même chose. C'est le principe, c'est toujours la même chose. Tout le monde n'aime pas forcément et on peut se dire aussi, tout comme on peut se dire il y a certaines personnes qui aiment le soap et puis c'est pas le cas de tout le monde, peut-être que certaines personnes aussi préfèrent le mode de narration plus cinématographique avec des histoires qui se clôturent à un moment et qui ne sont pas extrêmement répétitives. Si on est sériphile, véritablement sériphile, à mon avis, c'est qu'on aime aussi la répétition, et c'est un petit peu pour ça qu'on est tombé dedans. Moi, avant d'être sériphile, je regardais le même film une centaine de fois au minimum.
Oui,
donc...
mais bon, toi tu n'es pas bien dans ta tête.
Je crois que ça a déjà été déterminé, ça.
Voilà, bon voilà, donc c'est pas une norme à suivre nécessairement.
Voilà, exactement, on va dire, ne suivez pas mon exemple. On peut évidemment dire la même chose des différents procédurales, que ce soit au niveau de la police, de la justice, des épisodes médicaux, etc. C'est aussi le même principe, hein. On vient y rechercher quelque chose qui est assez répétitif, finalement. Mmh. Et c'est moins l'intrigue qui compte que la dernière réplique que va pouvoir nous sortir Dr. House, ou bien le dernier cas véritablement extraordinaire que va traiter l'équipe de Meredith Grey, ou je ne sais pas trop.
Ou
quoi.
D'urgence, oui.
Ou d'urgence, enfin voilà.
Bien, bien. Bon, ben, je te propose de faire à nouveau une petite pause musicale.
Oui.
Alors, sur la petite fiche, je ne sais pas te lire, donc je te laisse présenter.
Alors, il s'agit de Waiting Game de Banks, entendu dans Grey's Anatomy.
À tout de suite.
Sexy, but it's causing me shame. I wanna lean on your shoulder. I wish I was alive, but I don't wanna cause any pain. And if I'm feeling like I'm evil, we got nothing to gain.
en sommes déjà arrivés à la dernière partie de cette émission. On va parler des séries qui nous proposent un but, une fin, et qui par là même prennent un risque, puisque parfois elles nous déçoivent.
Oui, exactement. Et justement, la question, ça va être, finalement, au-delà de la déception, une fois qu'on l'a dépassée, est-ce que... En réfléchissant la série comme un art qui mettrait davantage en lumière le plaisir que l'on peut prendre en chemin que véritablement la destination, est-ce qu'il y aurait moyen de réhabiliter certaines séries qui nous ont frustrés par leur fin ?
Frustrés par leur fin, et surtout peut-être à la première lecture, il y en a peut-être des très compliqués.
Oui.
Où on n'avait pas compris tout, et qu'en y remettant un peu ses yeux dessus, on se dit, ah oui, quand même, on avait des indices de certaines choses. Voilà. Et là, j'en pense à une en particulier,
Tu te doutes. Je me doute de quoi tu veux parler, puisque en effet, peut-être que je peux les citer, parce qu'il n'y a pas de raison, suite à un épisode spécial de Pourquoi Buffy c'est génial qui s'appelait...
On se le demande.
Donc, qui était consacré à Lost, j'ai eu envie et j'ai embarqué un petit peu tout mon entourage
à revoir Lost,
oui,
et surtout
en effet.
Parce que c'est débarqué là il y a pas si longtemps sur Netflix aussi.
Oui, exactement, mais on va essayer de pas trop leur faire de la pub gratos, ils ont qu'à nous payer au bout d'un moment, non ?
Oh bon, ok. Allez, on le regarde en DVD donc.
Bon, et donc voilà, on a recommencé à regarder Lost. Qu'est-ce que t'en penses, toi, jusqu'à présent ?
Déjà, on est sur la première saison, et je me souviens, à l'époque, j'avais un peu bâclé cette vision de première saison. Donc moi, il y a plein de petits éléments bien sympathiques que je redécouvre avec plaisir. Et puis oui, derrière, comme on connaît la fin, et là, on vous la dira pas, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, ça devient intéressant, parce que, évidemment, la lecture est très très différente. On reçoit plein de petites informations qu'on ne sait pas décrypter à ce moment-là, et c'est deuxième vision est beaucoup plus intéressante à la limite que la première fois.
Oui, je suis plus ou moins d'accord.
C'est-à-dire
je reste malgré tout pas convaincue. je dois t'avouer que je fais partie des gens qui n'ont pas du tout aimé la dernière saison.
Même moi, là je vois de belles images de l'île et tout avec le soleil, mais je me souviens de m'être fait vraiment poliment chier devant cette série sur la fin, parce que ça va nulle part. Et malheureusement, je sens que ça va revenir, cette sensation, à un moment donné.
Même si c'est vrai ce que tu dis, et donc un deuxième visionnage est malgré tout intéressant, parce que ça permet d'en effet voir des choses qu'on n'avait pas vues la première fois, et je te rassure, je suis sûre qu'au deuxième, au troisième, au quatrième et au cinquième visionnage, on en retrouverait tout autant. Mais il n'empêche que je reste pas convaincue par l'idée selon laquelle, oui, en fait, tout ça était plutôt bien pensé. Je reste malgré tout pas d'accord avec... En tout cas, pour cette série-là, j'admets tout à fait que jusqu'à la fin de la saison 5, peut-être même le début de la saison 6, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc le chemin était super agréable. Mais par contre, la destination, quand on la connaît, gâche un petit peu le plaisir du revisionnage. Parce que moi, je peux pas m'empêcher de me dire... En fait, tous ces enjeux qui sont en train de se dérouler devant mes yeux... Ça n'a pas de sens.
À rien,
ça n'a pas de sens, okay, ce qu'on est en train de me raconter. C'est un petit peu la même sensation que j'ai eue à la fin de la saison 1 de American Horror Story, où finalement tu te dis oui, au bout d'un moment, si je veux pas spoiler, mais si voilà,
oui,
alors, ça me fait plus peur, quoi.
C'est ça, voilà, exactement.
donc voilà.
Et oui, et les enjeux sont quasiment, pour Lost, annulés, tous, si on veut.
Oui, exactement. c'est vraiment dommage, mais bon, les enjeux, c'est quand même quasiment à chaque épisode qu'il y en a au moins un qui est en danger imminent, quoi. Hein. Mm-hmm. Et bon, quel est le sens de tout ça? Je continue à pas être convaincue. Hein. Je crois que de toute façon, les sériphiles se partagent très clairement en deux groupes très très distincts, ceux qui ont aimé la fin de Lost et ouais, ceux qui continuent à pas l'aimer.
Ceux qui ont eu une imagination débordante. Voilà. Moi, je suis content de revoir certains éléments et ça corrobore un peu la fin, mais clairement, oui, non, ils n'ont rien résolu. Ils ont arrêté ça comme des bourrins et voilà. Et je sais, je sens déjà la pression, les souvenirs des dernières saisons, des derniers épisodes revenir. Et je sais que c'est pas parce que je l'ai revu une deuxième fois avec une certaine relecture que ça va me passionner. Je le sais déjà.
Oui, mais aussi, malgré tout, ça permet de se rappeler à quel point on a aimé ces personnages-là. Malgré le chemin était quand même super agréable.
Moi, Sawyer...
Mais oui,
Sawyer
Forever, je crois qu'on peut le dire.
Bah
hein.
Oui.
On l'a pas suffisamment
Il m'avait manqué,
dit,
mais bon, voilà. À part ça, il y en a plein d'autres qui vont bientôt arriver et qui... Oui, voilà.
Mais oui, mais enfin, il y avait plein de choses chouettes et on a vibré vraiment avec cette série-là, quoi. Ça, on peut le reconnaître.
Et on l'avait regardé en mode, on va dire, comme tout le monde. On attendait l'épisode chaque semaine, c'était prenant. Ils nous ont frustrés avec des fins, mais pathétiques, où on avait envie de taper nos chaussures dans la télévision, qui était cathodique à l'époque. Enfin, non, oui, c'est une série qui nous a déçus parce qu'elle nous a menés loin. Et c'est tombé comme un gâteau tout plat, pas cuit, j'en ai encore mangé un cette semaine. Voilà.
Bon, bref, on va essayer
ça
de conclure.
Ça, c'est pour le cas de Lost, oui. Bon, t'en as d'autres comme ça qui... Bon, Dexter nous a déçus,
écoute,
mais pour d'autres raisons.
Oui, Dexter, je crois clairement qu'il faut mettre ça sur le coup de... pendant les dernières saisons, ils ont donné les commandes à je sais pas, des singes ou quoi, ils leur ont dit faites n'importe quoi.
Allez-y, on a de l'argent maintenant.
Et ils ont super bien fait ça, ils ont fait n'importe quoi. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
Bien.
Bon, je suis désolée pour les singes en question, mais voilà.
Bien, bon, on va clôturer. Je pense qu'on a été assez loin dans nos sarcasmes aujourd'hui.
Oui.
Tu as une petite conclusion quand même.
Petite conclusion donc, à laquelle je voulais arriver. J'ai l'impression que c'est cette manière de reconnaître qu'il y a une autre forme de narration qui s'impose avec les séries mène à deux conséquences. La première, c'est que je crois qu'il faut reconnaître d'emblée que la pratique sériphile, et notamment pour ceux qui prétendent apporter des critiques de séries comme nous essayons de le faire ici, est forcément, j'ai l'impression, beaucoup plus subjective que la pratique cinéphile. Pourquoi ? Parce que il y a une telle dimension de rapport quotidien avec la série qui doit s'instaurer pour que véritablement la sauce prenne, que tout ça dépend énormément d'une personnalité à l'autre. Et exiger, même si la série est vraiment de qualité, exiger de s'imposer des séries et des saisons entières dans lesquelles finalement on ne se retrouve pas et on s'ennuie, etc., au final, ça n'a pas beaucoup de sens. Et enfin, moi, j'ai un exemple en tête très clair. Mad Men, j'ai regardé 5 saisons. Ça fait 5 saisons que j'entends que c'est une série géniale. Ça fait 5 saisons que je me force et que j'attends désespérément que quelque chose arrive, une épiphanie qui me fasse dire « Ah, ça valait la peine d'attendre autant ».
Mais non.
Mais j'ai du mal,
c'est vraiment une question de perception. Mais c'est la même chose que le cas extrême, les soaps. Bah voilà, j'aime pas. Pourtant, bah, ta grand-mère regarde ça tous les jours depuis 154 ans. Donc, c'est qu'il y a moyen. Enfin.
Mais oui, mais tu vois, c'est vraiment... C'est tellement subjectif, ça dépend tellement de ta personnalité et de ce que tu as déjà comme background.
Oui. ton vécu, de ce que tu vis au jour le jour aussi. On peut être attiré par des séries tristes quand on va pas bien, enfin ce genre de choses.
Oui, voilà. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, mais c'est que on peut le voir. Le fait de regarder des séries, ça porte déjà en soi un propos qui serait la primauté du quotidien, la primauté des petits détails, la primauté d'un attachement à une vie au jour le jour qui se retrouve bien plus dans les séries et qui donc fait qu'on abandonne un petit peu l'idée d'une grande histoire, l'idée de grande narration avec un but, qu'on abandonne aussi les grands idéaux pour quelque chose de beaucoup plus immanent, de beaucoup plus pragmatique.
Bien, bien. Dernière petite remarque par rapport aux séries, c'est que souvent elles sont plus courtes, donc peut-être plus faciles à regarder par certaines personnes dans la vie active. Tu vois, un film, tu es parti directement pour 2 heures. Une série, c'est peut-être plus facile aussi à suivre dans le format.
Oui, oui, c'est
donc
vrai,
c'est
aussi.
C'est pour ça que
ça s'insère un petit peu partout dans notre quotidien.
Avant de cuisiner, tu as des trucs qui cuisent, tu viens vite regarder ta petite comédie. Donc c'est beaucoup plus pratique aussi à ce niveau-là, de manière narrative. Ça s'intègre mieux dans la vie de tous les jours. Ben voilà, on va déjà se quitter. On a beaucoup parlé cette semaine. On va se quitter en musique.
Oui, avec Love is All Around des Troggs, entendu dans Orphan Black.
Très bien, l'actualité de votre émission préférée, Série Folie, eh bien ça se passe via notre site internet, le www.seriefolie.be, Série Folie en un mot, avec un S à série. Et alors vous retrouverez également les mêmes choses sur Facebook ou via Twitter, seriefolie.be. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On se quitte en musique.
There'll be no end, 'cause all my love